Alors, bienvenue à ce podcast sur la quête identitaire avec Marjorie et Mathieu. Bonjour Marjorie!
Salut Mathieu, bonjour tout le monde.
Et content que vous soyez là dans cette série où ce qu'on a exploré l'identité sociale, l'identité spirituelle, l'identité énergétique. Et là, on est rendu sur le processus de faire évoluer, faire avancer notre concept identitaire au travers ces différentes notes-là.
Dans le fond, Mathieu, on serait rendu à parler de quoi aujourd'hui? Là? Si tu nous fais un résumé des derniers thèmes qu'on a vus là, depuis le début, puis en quoi ça nous a préparé à faire un pas de plus, à s'identifier, non pas juste à notre corps énergétique, à notre âme, mais là, faire un pas vers l'esprit. C'est la vie, c'est quoi ça?
En effet, je pense qu'on va se remettre en contexte, vu que la première fois, on avait vraiment parlé de l'identité sociale. Comment on s'identifie à notre personnage, à notre nom, à nos diplômes, à notre famille, à notre travail, etc. Ça, la plupart des gens, on comprend très bien qu'est-ce que c'est. Et c'est ça qui est valorisé dans notre société. Mais on a vu aussi que quand on commence à avoir des expériences spirituelles ou qu'on commence à connecter à notre monde intérieur, à notre cœur, à l'amour, puis tout ça, là, on commence à développer une conscience spirituelle. Et là, on commence à sentir qu'on est une âme, on est un ange, on a une certaine vision du monde complètement différente parce que notre relation au temps, aux autres, est vraiment différente. Et ensuite, on a commencé à observer qu'il y a une forme d'identité plus profonde encore, qui est une identité au-delà de l'âme, qui est une identité à l'énergie vivante. C'est-à-dire que là, on va ramener notre sensation de présence à l'énergie éthérique qu'on avait parlé, à une conscience énergétique. Et ça, c'est une grosse étape. Parce que des fois, on peut être en conscience spirituelle ou en identité spirituelle, mais on est déconnecté du sentiment de la vie. Donc, on peut être pris dans une bulle spirituelle. Nous, ce qu'on pointe, c'est cette progression-là du social au spirituel, mais sans arrêter au spirituel pour aller vers la conscience énergétique. Et cette conscience énergétique-là, elle est en reliance avec le concept de l'esprit. Hein? C'est sûr que quand on est rendu là, on commence à se perdre dans les mots parce que plusieurs traditions, plusieurs philosophies ont nommé les choses différemment. Mais nous, on va voir l'esprit un peu comme la source de l'âme. Un peu comme si l'esprit était un soleil et l'âme était un de ses rayons. Et quand ça s'incarne sur Terre, ça crée une personnalité. Et le processus d'individualisation, c'est quand la personnalité se redresse dans son rayonnement d'âme pour reconnecter avec sa source qui est le soleil. Évidemment, on est dans des jeux métaphoriques. Mais ce qui nous intéresse quand même, c'est le processus humain, hein, le processus quotidien, le processus dans une vie humaine, de pouvoir naviguer au travers ces identités.
Je t'entends dire concept de l'esprit, puis ce jeu métaphorique, puis ben c'est ça, cette notion de concept de l'esprit. T'sais, on peut lire beaucoup de littérature, puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, en tout cas, du moins dans mon entourage proche, dernièrement, on m'envoie beaucoup de liens. Regarde Marjorie, le supramental, ça ressemble à des choses que tu dis, puis le supramental, puis... puis des fois, quand je regarde ça, dans les gens qui le vulgarisent, ma première réponse est, je le ressens pas. Ah, c'est juste des concepts qui sont parlés. Puis je raconte ça, parce que dans le fond, ce que tu pointes et ce qu'on pointait dans le dernier podcast, c'était de passer par une conscience éthérique pour vraiment vivre ce qu'est l'esprit. Et quand on fait l'étape de descendre dans le corps et du ressenti, pour moi, il y a un passage du concept au vécu, où il y a, dans la résonance, il y a une vibration que l'on ressent, et pour ça, pour celui qui le vit, ça devient juste senti, vrai, ça se sait. Puis beaucoup de gens, en fait, qui sont encore dans une conscience identitaire spirituelle, se tourne vers le supramental ou se tourne vers ces concepts-là, puis ça peut encore plus participer à la déconnexion que tu pointais, puis au fait de s'enfermer dans une bulle.
En effet, c'est comme moins important d'entendre les mots qu'on nomme, mais plus de ressentir de quoi qu'on parle. Dans le sens que c'est une réalité vibratoire qu'on essaie de nommer, qu'on essaie de vous inviter à. Toutes nos pratiques qu'on fait, là, les pratiques de la géosophie, ça a tout le temps pour but de ramener l'individu dans sa vibration, dans son autorité, dans sa souveraineté, qui fait qu'il n'y a même pas besoin de passer par le spirituel pour connaître le réel. Le réel qui vibre, l'information qui est là, boum, telle qu'elle, crue, directe. C'est souvent choquant l'information directe parce qu'on est habitué de vivre dans des filtres personnels ou des filtres religieux, spirituels. Mais le réel du quotidien est extrêmement puissant et vibrant et ça bouscule un peu. Donc le choc du réel, c'est un peu qu'est-ce qu'on est en train d'être invité à vivre au travers la fameuse pandémie, COVID, etc., où c'est qu'on voit d'une certaine façon l'ampleur du mensonge et l'ampleur de la manipulation sociale, gouvernementale, industrielle, etc. Et on est invité à prendre notre pouvoir en tant qu'individu connecté. Parce qu'on le sent. Hein? Les gens qui sont connectés à eux-mêmes, ils sentent le mensonge. Et ils sentent aussi la vérité. Et cette vérité-là, elle nous invite à reconnecter à quelque chose de vraiment puissant à l'intérieur de nous.
Puis à agir à partir de cette puissance-là. Puis c'est ça le choc que ça peut nous amener à vivre, finalement, parce que quand on se laisse être ajusté par cette force de l'esprit, tout est bousculé en nous. Et tout se bouscule autour de nous.
Alors, on se retrouve dans ce podcast-ci à observer la ligne, on pourrait dire temporelle, de cette transformation identitaire-là. Et on voit depuis qu'on est jeune, on passe au travers plusieurs étapes. Et c'est juste que ces étapes-là, ils finissent pas. Ils finissent pas, tout simplement. Ils continuent. Au début, tu sais, quand on est très, très jeune, on est identifié à notre famille, à notre mère, tu sais, puis on est comme dans une bulle. Après ça, on est comme vraiment dans la famille. Puis à un moment donné, il commence à avoir une crise identitaire de l'adolescence qui commence à faire « Hey, je suis une personnalité telle qu'elle. Tu sais, je suis une identité personnelle différente de mes parents, différente de ma famille. » Et peut-être même différent de ce que la société me propose. Il y a une crise identitaire personnelle. Après ça, on peut rester là longtemps. On peut rester là toute notre vie. Mais à un certain moment, il peut y avoir une autre crise, où, comme on disait, en connectant au cœur, quand il y a une ouverture du cœur, puis qu'il y a, là, il y a cette connexion-là à l'âme, on est comme « Oh my God, je ne suis pas juste une personnalité, je suis un être d'amour. » universel, la mort n'est pas qu'est-ce que je pense, etc. Puis là, il y a une crise identitaire spirituelle. Souvent, à ce moment-là, pour certaines personnes, ça va être en reliance à certaines traditions, religions ou formules spirituelles dans lesquelles on peut rester coincé encore. Mais à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'on rejette une partie de notre personnalité et on commence à avoir une identité plus spirituelle. Et encore, on peut rester là très longtemps, quelques vies peut-être. Et là, on est invité ensuite à vivre d'autres crises, où ce qu'on commence à comprendre que la religion, les traditions, nous permettent pas nécessairement de rentrer en conscience énergétique ou en conscience
vibratoire
de l'esprit source. Et là, il va y avoir une autre crise. Et vous voyez, c'est une série de crises identitaires. Et quand on commence à apprécier la mécanique, cette capacité-là à se dépouiller d'une ancienne enveloppe, de mourir à notre ancienne identité, d'accepter qu'est-ce qui s'en vient, de vivre des transitions, là, tout à coup, on y prend plaisir. Mais c'est pas toujours plaisant quand on s'accroche à l'ancien.
Mm-hmm. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais, par exemple, de la différence entre lire le concept et le garder dans une littérature versus qu'est-ce qui se passe quand on le vit vraiment. Puis dans le fond, t'es en train quasiment de donner, pas la méthode, là, mais pour nous valider où est-ce qu'on en est. Ben, est-ce que chacun, vous, l'avez-vous vécu cette crise-là? T'sais, est-ce que vous avez vécu ce passage-là où profondément, il y a un choc total à l'intérieur de vous, un dépouillement, une mort initiatique, pour renaître à quelque chose de complètement différent?
Évidemment, c'est pas nécessairement, ça se passe pas nécessairement dans de l'absolu. Hein. C'est dans très, très relatif, c'est dans le quotidien, ces choses-là. Des fois, ça va s'exprimer au travers d'un voyage, un retour de voyage, au travers d'une fin de cycle, une fin de relation, un divorce, un déménagement, une perte de travail, le début d'un nouveau travail. Vous voyez, ou une catastrophe, ou une pandémie. Vous voyez, chaque moment de transformation ou d'invitation à se transformer est d'une certaine façon initiatique. C'est-à-dire que ça nous invite à aller à l'intérieur puis à se transformer.
Mm-hmm.
Parce que si on ne fait pas ce mouvement intérieur puis que c'est juste l'extérieur qui change, c'est comme si on n'avance pas, là.
Mm-hmm.
Et on continue à répéter les mêmes erreurs. On crée les mêmes sociétés. On continue à encourager des cycles négatifs. Puis finalement, on arrive à une place où c'est que là, tout à coup, le choc doit être encore plus fort pour que l'individu se réveille.
J'ai le goût de l'amener dans un exemple concret. Dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un qui pensait vivre une dépression sur les médicaments, puis en lui parlant, à un moment donné, je dis, ben non, c'est pas une dépression, c'est une célébration. Parce que la personne était prof de yoga, elle avait son centre, puis là, elle était en train de vivre pas juste le chiffre social, là, de se rendre compte de qu'est-ce qui se passait, mais vraiment être en train de dire, ben ça résonne plus pour moi, les maîtres, les gourous, tu sais, un peu cette phase-là. Puis là, dans le fond, elle avait plus de point de repère, tu sais. Fait que là, ben, le passage qu'elle était en train de vivre, c'était d'entrer dans la conscience énergétique pour l'amener à ressentir après cette vibration-là de la vie qui a toujours été là, derrière les traditions. Mais là, dans ce chiffre-là qu'elle vivait, c'est super anxiogène. Puis là, ben, c'est sûr que dans ton quotidien, quand tu as des enfants, tu payes ton loyer puis tu n'es pas supporté par des pères là-dedans, ben c'est très... Ben tu penses que tu fais une dépression, puis les autres autour de toi te donnent des pilules. Puis c'est pour ça qu'en lui parlant, on change tout le point de vue de tout ça, puis finalement, ben vas-y, tu sais, fais le ménage intérieur, puis va à l'essentiel des outils. Par exemple, pour moi, c'est... pour nous, je devrais dire, là, mais tu sais, à ce moment-là, pour moi, c'était relie-toi au cœur, et va plus profond au centre de ton cœur, puis... Ouvre par en dedans, il fait que ressentir est ancré là. C'est comme le seul point fort qui est à ce moment-là. Ça, c'est parce qu'on l'a vécu. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais pas eu le choix de rester 2 semaines couchée à la maison. Donc, c'est ça que quand les gens, des fois, ils savent pas que c'est ça que ça fait, être ajusté par la vie, être mis en choc pour bouger les choses. Mais là, on n'ose pas vivre ça. Mais disons que nous, ce qui nous intéresse de verbaliser au travers de ce podcast-là, c'est que c'est normal si ça vous arrive. C'est normal. Accueillez. Laissez-vous être bougé dans l'intérieur. C'est comme la chenille qui rentre dans son cocon, qui laisse des bouts et qui renaît avec des ailes. Donc, des fois, il faut oser aller dans le cocon.
Ouais, puis des fois dans le cocon, c'est pas nécessairement de tout arrêter ou de prendre des vacances, hein. Des fois, c'est de revenir juste dans le corps, de ressentir qu'est-ce qui est juste. L'affaire, c'est que quand on sait qu'est-ce qui est juste, on s'aperçoit qu'il y a des amis qui ne nous correspondent plus, qu'il y a des travails qui ne nous correspondent plus, qu'il y a des lieux qui ne nous correspondent plus. Et là, c'est ça, c'est là que ça demande de l'action. Et quand on le sent dans le corps, ben, on pourrait s'étouffer puis rester dans la situation, puis on va stagner longtemps. Ça va tellement stagner que ça peut engendrer des maladies, ça peut engendrer vraiment des malaises existentiels très, très forts, d'où la dépression. L'affaire, c'est que quand on commence à écouter qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est là, cette intelligence vibratoire-là, boum, on sait quoi faire.
Mm-hmm.
On sait quoi faire, puis on le fait avec amour et engagement envers la vie. Hein, on ne le fait pas contre les gens, on le fait parce que c'est ce qui est juste. Puis ça, c'est un shift, mais comme radical. C'est ce qui nous permet de refuser des autorités extérieures. C'est ce qui nous permet de dire non à ce qui est anti-vie. C'est ce qui nous permet de dire non à l'abus. C'est fort. Mais ce n'est pas une réflexion. Ce n'est pas une philosophie. C'est un état intérieur. Je le sais et je l'assume et je fais le pas. Et là, c'est comme d'un pas à l'autre, on va s'apercevoir que la vie va toujours nous proposer des étapes. Tout devient une étape. Absolument tout. À l'épicerie, avec les amis, la nuit, pendant qu'on dort, tout devient comme un chemin de conscience vibratoire. Où c'est qu'on n'a pas besoin de lire sur Internet, on n'a pas besoin de lire des livres, on n'a même pas besoin de demander conseil à quelqu'un d'extérieur. On devient ultimement seul. Mais tellement vibrant qu'on est en parfaite connectivité avec les forces de la vie, fait qu'on est absolument seul et unifié. Donc, il n'y a plus ce sentiment-là dramatique, psychologiquement tout seul. Là. On n'est plus tout seul. On est le tout et on est seul. Hey, mais se stabiliser dans cet état-là, c'est pas... Tu sais, des fois, on y touche, on peut y toucher quelques heures, minutes, quelques secondes. Déjà, c'est gigantesque. Mais que quand on dit le « je suis », que ça résonne à partir de cette place-là, c'est ça, ce concept de transfert identitaire progressif. Qu'à un moment donné, on est tellement stabilisé là-dedans qu'on est inébranlable. Puis dès qu'il y a un choc, on est capable de tout de suite se référer à soi-même, à ce qui vibre dans nos cellules, à place de demander à la tradition, à la religion, à la philosophie, aux autres, ou à la société, qu'est-ce qu'ils en pensent. On s'en fout, qu'est-ce que les autres pensent. Il faut savoir qu'est-ce qui vibre.
Ça peut être aussi ébranlant au niveau des apparences, parce qu'exemple qu'un enfant de 10 ans est à côté là-dedans et qu'il sait, ben, les adultes qui vont dire, ben, t'es plus jeune que moi, t'as une forme plus jeune, non, tu ne sais pas. Hein? Ça peut venir bousculer les plus vieux qui pensent savoir les choses justes. Alors, ça vient bousculer pour moi en ce moment comment on va gouverner notre société. Pourquoi un être plus jeune ne pourrait pas être à côté dans son autorité, déjà en partant? T'sais, les jeunes d'aujourd'hui arrivent avec moins de filtres, justement, et je ne suis pas convaincue qu'ils aient à passer nécessairement par toutes les étapes de sociabilisation, etc., que dans le passé on pouvait vivre. Je suis convaincue qu'un enfant, par exemple, qui naît dans cette conscience, dans un cadre qui peut supporter ça, exemple, à 5 ans, 7 ans, 9 ans, il est encore à côté, puis il peut savoir plus que des adultes ce qui est juste et à faire, parce qu'il est en conscience vibratoire. Mais pour ça, ça demande aux adultes qui l'entourent d'être capables de reconnaître ça, de se défaire des jeux des apparences, de se défaire du jeu jeunesse versus vieillesse.
pour ça, hein, c'est comme juste de demander, mais qu'est-ce que tu feels? Comment ça résonne dans ton corps? Des fois, ils veulent nous expliquer, ou on peut parler d'un adulte aussi, tu sais, qui veut nous expliquer son idée. Là, c'est comme, ouais, mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce qui résonne dans ton corps? C'est quoi qui est en dessous de ça? De constamment aider l'autre à revenir à qu'est-ce qu'il ressent dans son corps. Parce qu'au début, il peut y avoir un conflit entre qu'est-ce que nous, on pense, qu'est-ce qu'on ressent émotionnellement, qu'est-ce que la société nous dicterait de faire, ou quelle philosophie, etc., etc. Mais avec qu'est-ce qu'on ressent profondément dans notre corps énergétique, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Et de faire le choix de revenir à ça, c'est ça le chemin, c'est ça l'enjeu. Parce qu'on sait que quand on choisit ça, tout à coup, il n'y a plus d'emprise sur nous. Et ceux qui avaient de l'emprise sur nous, société, travail, conjoint, peu importe qu'est-ce que c'est, tout à coup, ils n'ont plus d'emprise. Et ils peuvent se choquer. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour garder la mainmise sur l'individu. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe socialement ces temps-ci, vu que l'individu est en train de se réveiller, de voir le mensonge, etc. Le côté sombre de la société s'agrippe plus que jamais, puis fait tout ce qu'il peut pour pouvoir garder une mainmise de contrôle. Mais quand l'individu est connecté, il n'y a plus besoin de ce contrôle-là, il va le rejeter.
En effet, puis si j'en reviens sur le filon jeunesse-vieillesse, tu sais, autorité, où c'est que ça nous amènerait à parler, mais justement, quand un être d'apparence jeune est dans son autorité, ben ça va bousculer l'autorité qui s'est mise en place dans le monde des formes et des apparences. Puis c'est ça qui peut devenir choquant aussi et gênant. Tu sais, et c'est un effondrement peut-être qu'on est appelé à vivre, où on va laisser les formes qui nous gouvernent disparaître pour laisser l'essence même de la vie prendre place. Il va falloir, d'une certaine façon, pas être attaché à l'apparence des gens. Si c'est un être dans un petit corps qui est là et qui a la parole juste, l'action juste et la direction juste, ben ça sera à nous de laisser la place à ça pour être.
Mais ce que je vois aussi en arrière de ça, c'est que des fois, les jeunes n'ont pas nécessairement, sont pas encore capables d'articuler leur vibration interne, mais sont en contact avec. Mais vu qu'ils ont déjà été comme un peu formatés, hein, parce qu'on se fait formater en périnatal, hein, puis au début de notre vie, hein, rapidement, mais c'est à l'adulte d'être capable de l'aider à décoder l'information. Puis à dire, ah, OK, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Puis c'est quoi le besoin? C'est quoi l'impulsion vitale qu'il y a en arrière? T'sais? Parce que des fois, ça peut sortir en colère. Puis quand c'est en colère, c'est parce qu'il y a clairement une vibration vitale qui n'est pas accueillie. Donc, il y a un choc, là. Il y a une frustration de ne pas être entendu. Après, ça peut devenir de la tristesse, puis ça peut devenir comme plein d'émotions. Mais en arrière des émotions, il y a tout le temps cette vibration-là. Puis plus on apprend à revenir vers l'information directe, mon Dieu, et que ça va aller vite. Mais on dirait que je suis en train de me dire que quand on est en conscience personnelle, ou tu sais, une identité personnelle, nos justifications sont dans notre tête, sont très mentales. Quand on commence à rentrer beaucoup plus dans le spirituel, nos motivations deviennent plus émotionnelles. Ils sont plus teintés de dévotion ou d'attachement. Puis les émotions, ils sont plus fortes encore. Puis quand on se retrouve en conscience énergétique, ben là, tout à coup, c'est vibratoire.
Dans le fond, ce qui monte depuis tantôt, quand on parle jeunesse, etc., là, je viens de, en t'entendant parler, là, mettre le doigt un peu plus sur l'information que je portais. Parce qu'exemple, moi, j'ai été souvent dans un contexte d'enseignement dans le cadre de notre centre où je suis la plus jeune, qui enseigne à des gens plus vieux, qui partage à des gens plus vieux. Et ça arrivait beaucoup au début, quand j'étais pas encore assez solide à l'intérieur, que les gens me défiaient sur mon autorité, sur qui je suis moi pour ci, pour ça. Et il a fallu que je défasse cette tentation-là mentale de vouloir me justifier dans mon existence par rapport à autrui ou à pseudo-certification ou à ce que ces gens-là avaient à l'attendre que j'ai. Pour finalement arriver à enlever ces encoches-là d'autorité pour juste stabiliser dans cette vibration-là et dire, ben, est-ce que tu ressens ce que je dis est juste ou pas? Et si oui pour toi, alors vis-le et intègre-le. Je te demande pas de me croire. Moi, je vais pas me justifier non plus. Je vais pas m'asseoir dans mon autorité sur un papier ou quoi que ce soit, mais on va juste entendre ensemble si ce qui vibre est juste pour toi ou pas. Puis c'est ça qui devient le guide. C'est plus nos âges, nos professions, nos parcours. C'est est-ce que ça vibre ou pas? Mais pour ça, il faut être dans notre corps pour le ressentir.
Et parler. La parole devient tellement puissante dans cet espace-là parce que quand on parle, et là ça vibre ou ça vibre pas, fait qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir la parole juste. Il faut faire le test, il faut parler. Il faut tout simplement parler, exprimer qu'est-ce qu'on vit, même si c'est maladroit, même si c'est incohérent. Puis là, au fur et à mesure de parler, on va être capable d'entendre et de vibrer et de raisonner, d'évaluer, puis de faire « OK, là, j'étais juste. Waouh, là, j'ai dit ça, puis ça a vraiment résonné. » Puis, hein, c'est comme aller à tâtons dans un nouveau monde, t'sais. Mais par la parole. On dirait que la parole nous permet d'évaluer qu'est-ce qui est juste, de qu'est-ce qui est faux. On sent dans le ton, dans la vibration, dans la tonalité, dans la texture, dans la couleur, dans la résonance intérieure de qu'est-ce que ça fait en soi ou avec l'autre. Donc, la parole devient comme un outil. Hein, tu sais, c'est...
Mm-hmm. Mais on pense souvent que parler, c'est pour convaincre quelqu'un d'autre. Hein? À un moment donné, j'ai compris que j'apprenais à parler pour moi-même. Justement, c'est ce que tu dis, pour entendre ce qui est vrai et juste au travers de moi. Fait que du coup, j'ai relâché la pression de devoir dire quelque chose à quelqu'un ou comment l'autre allait le recevoir puis comment l'autre allait l'interpréter. Ben là, il n'y en a plus eu de problème à parler parce que ça ne concerne même pas l'autre. Au bout du compte, c'est juste un jeu de reflet envers moi-même.
Mais en plus, on est tellement dans une société de « small talk ». Hein, de remplissage de l'espace, parce qu'il y a un malaise. On remplit l'espace avec du blabla, puis des quotidienneries, tu sais, qui nous déconnectent. À vrai dire, on est habitué d'utiliser le langage pour se déconnecter du ressenti. Donc, de pouvoir comme créer ces espaces-là, pas de silence, mais de paroles justes. Hein, on aime bien ça, nous, des fois, parler du Parlement et du Parle vrai.
Mm-hmm.
Le Parle vrai et cette invitation-là à aller dans cet espace-là, à prendre son temps pour nommer sans emballage, sans tout le gras. T'sais, des fois, on a une information, puis là, on va faire un gros préambule, on va s'excuser, on va se justifier, puis finalement, on passe notre information qui vibrait, mais est tellement enveloppée que ça vibre plus pantoute. Puis l'autre n'a rien compris. Des fois, on peut juste faire un petit préambule là, au minimal, sortir l'information et laisser de l'espace. Et surtout, demander à l'autre personne de ne pas répondre. De laisser de l'espace pour que ça résonne. Si on parle trop vite, puis qu'on se coupe, puis qu'on se relance, puis qu'on se justifie, ça devient un dialogue. On est divisé dans un dialogue. Tandis que la parole porte le verbe, la résonance. Et là, ça crée. Qu'est-ce que ça crée? Ça stabilise notre identité dans le plan vibratoire. On se crée en parole. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime ça quand j'ai quelque chose, supposons j'ai une émotion ou j'ai une confusion. J'ai besoin d'un ami qui va m'écouter, mais qui ne va pas me donner de conseils. Qui va juste écouter puis laisser de l'espace. Puis au fur et à mesure que je parle, je me démêle. Puis là, tout à coup, ah, je commence à retrouver le sens. Je m'entends. Puis après, je suis comme, oh, wow, merci. Je me suis entendu. Puis là, j'ai écouté les petites brides de vérité. Puis après, je vais pouvoir méditer avec ça. Créer plus d'espace pour ces petites bulles de résonance.
Mais il y a quelque chose qui me démange, là, moi, depuis le début. Puis j'ai le goût de l'aborder. C'est que ça concerne le chiffre que moi, je t'ai vu faire. Entre autres. Parce que si t'es bien quelqu'un qui a lu la littérature supramentale, c'est bien toi, hein, avec Aurobindo, Bernard de Montréal. Moi, quand je t'ai connue, t'étais beaucoup là-dedans, dans ces sphères-là. Est-ce que je me trompe?
En effet.
Et moi, j'ai vu quelque chose de beau se faire depuis que je te connais, en fait. Puis je t'écoute aujourd'hui, puis ça vibre dans le corps, puis j'en ai des vibrations partout. C'est comme tu ramènes l'essence de ce message-là à descendre dans son corps et ressentir. Pour moi, ça, ça me touche au plus profond que tu dises ça, parce que on parle pas de ça nécessairement, j'ai l'impression, dans la littérature supramentale. Et c'est comme si tu arrives à en condenser l'essence qui, pour moi, me rejoint, qui me fait vibrer, alors que j'accroche pas normalement à ces propositions-là. Puis je pense que j'accroche pas parce que si je regarde du point de vue de l'histoire où elles ont été écrites, je me dis, imagine, ils sont des personnages ou des personnalités qui envoient à l'humanité un message à un moment où la personnalité n'est pas nécessairement connectée, ancrée en conscience de son âme. Alors, le supramental a l'air de quelque chose de très, très haut, très, très... Fait que quand on lit ça d'un point de vue où on n'est même pas incarné ou en conscience identifié aux formes spirituelles, là, ça reste comme dans une bulle, OK? Et ça peut être dangereux, finalement, parce qu'on ne revient pas. Mais dans le fond, le supramental semble être de dire, laisse juste la pensée de cette intelligence-là pure descendre en toi et se vivre au travers de ton corps en tout instant. Est-ce que je le résume bien?
Si ça vibre, tu vas le savoir.
Je vais te laisser pareil de ça. Je te taquine.
En effet, oui, j'ai eu tendance dans le passé à visiter beaucoup de sphères supérieures, à comprendre des choses, mais pas nécessairement les incarner. Puis là, ben, plus ça va, plus je trouve ça intéressant de faire ce bout de chemin-là. D'incarner l'information, pas juste au travers des projets, mais au travers une attitude et puis un espace intérieur, justement, pour que ça vibre. Mais moi, ce que je me suis aperçu aussi, c'est dans, mettons, les deux dernières années, là, où c'est que ça s'est intensifié, c'est pas facile à gérer dans mon corps la haute vibration, là, puis j'ai vu mes tendances de fuite. C'est comme devenir plus intense. C'est comme chercher plus de nourriture, plus de divertissement, plus de travail, plus de fuir. On dirait que j'étais pas habitué à vivre avec un autre octave vibratoire comme ça. Puis c'est paradoxal parce que c'est une invitation là, comme que je travaille avec là, pour intégrer cette forme, cette énergie-là. Mais en même temps, mon corps émotionnel, il capote. Fait que mon travail devient d'accueillir finalement les émotions profondes que j'ai. La tristesse, la colère, la frustration, l'envie, le désir. Plein de trucs qui vont remonter. C'est comme si plus on rajoute de lumière dans un contenant, plus les résistances ou les particules sombres vont être mises en lumière, vues. Tout à coup, on dirait qu'ils prennent plus de place. Mais c'est relatif, là. Mais ce que je veux pointer avec ça, là, c'est que tout le monde, vous qui nous écoutez, à chaque fois qu'il y a un appel de lumière qui rentre dans votre corps, ça bouscule les vieux schémas. Puis les vieux schémas vont être emphasés pour être vus. Donc, c'est comme un peu même le processus de détox physique.
Mm-hmm.
On commence à boire plein de jus vert, puis à boire beaucoup plus d'eau, puis à faire rentrer de la santé dans notre corps. Puis là, tout à coup, toutes nos toxines, toutes nos levures, toute notre acidité, tout à coup, tout devient comme fou dans notre corps. Puis là, on se met à faire de l'eczéma, des maux de tête, on pue, tu sais. C'est comme parce qu'il y a un processus de détox. Il faut faire sortir les toxines du corps quand on commence à faire rentrer beaucoup plus de vie. Je pense que c'est ça dans l'être au complet. Puis c'est ça qu'on oublie dans le processus d'évolution identitaire. C'est que c'est des phases de détox. Puis moi, c'est ça. Là, j'ai comme des phases de détox face à la vibration. C'est comme énergétique supramentale, comme tu la nommes des fois. Et j'accepte que ça résiste dans mon corps, t'sais. Mais ça, en même temps, ça fait du bien de pas trop me battre avec ça, puis de continuer à focusser, à avancer, à laisser les toxines mentales, émotionnelles s'évacuer peu à peu.
Mm-hmm. Oui, mais dans le fond, je remettais juste le concept de supramental à l'esprit, à la vie pure. T'sais. Puis moi, ce qui résonne en ce moment, c'est que souvent les gens pensent que l'ouverture du cœur, puis l'éveil à cette réalité-là, est comme une finalité. Mais non, c'est le début. C'est le début du travail de l'éveiller. Parce que l'éveiller, dans le fond, c'est ce que tu dis, il va prendre, que tu as mis en exemple, là, c'est de prendre la lumière puis de la faire descendre dans son corps. Et là, de transformer les codes qui sont dans le corps. Pour tous ceux qui ont, OK, on a le cœur ouvert, puis qui sont déçus de revenir de l'extase, mais non, c'est pas, faut pas être déçu. C'est là que le travail commence. C'est ça le travail de l'éveiller, de transformer ces choses-là dans sa matière. Fait que c'est un travail perpétuel de transformation. Fait que c'est pour ça qu'on disait que c'est la méthode un peu, c'est l'art de la crise. L'art de vivre ces passages-là de crise, de détox, là, comme tu viens de nous faire en exemple, pour de plus en plus l'incarner, le vibrer.
Hmm. J'ai le goût de le remettre encore dans un niveau social où ce que c'est comme si on est comme obligé ou invité globalement, t'sais. Tous les individus sont invités à aller dans cette direction-là. Comme si c'est une marée montante. Puis que c'est inévitable. Là. Il y a de quoi de fort qui est en train de pousser dans tout le monde. Puis tout le monde est invité à s'exprimer. À dire qu'est-ce qui est. Puis d'essayer de s'exprimer. Puis c'est ça que je vois qui est beau sur les réseaux sociaux de ces temps-ci. Le monde essaie de parler de toutes ces conspirations-là, de toutes ces engrenages. Qu'on ne voit pas, t'sais. Il y en a qui c'est maladroit, il y en a qui se battent contre ça, il y a du monde qui... Mais l'information circule. C'est l'information qui va nous libérer. C'est cette capacité, c'est cette... il faut parler. Puis ça, c'est à petite échelle, c'est la même chose à l'intérieur de nous. Il faut parler de l'abus qu'on vit au travail, qu'on vit dans nos relations, qu'on vit face à d'autres formes, d'autres forces. De l'abus de l'astral, de l'abus du mental, de l'abus des toxines à l'intérieur de nous, tu sais, puis de mettre le doigt dessus, puis d'arrêter de faire comme si c'était pas là. On est comme complètement engourdi depuis tellement longtemps, comme devant une télévision, dans une prison, puis qu'on est convaincu qu'on vit quelque chose. Puis là, c'est comme tellement désagréable des fois que de déploguer la télévision puis s'apercevoir qu'on est dans une prison. Puis comme, attendez là, comment on fait pour sortir d'ici? Non, c'est pas en rallumant la télévision qu'on va sortir de là. Mais pour moi, genre, c'est ce que la société en général est en train de vivre avec ce confinement-là. On commence à sentir le malaise de la prison. Puis ça, c'est une métaphore de cette prison-là dans laquelle on vit à l'intérieur, coincé dans notre identité personnelle ou coincé dans notre identité spirituelle, incapable de vibrer avec la vie, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et là, le choc, ultimement, c'est de reconnecter fort, fort, fort avec la vie. Si on ne reconnecte pas fort, fort, fort avec la vie, ça va continuer à déraper vers du transhumanisme puis d'une tournure technologique extrêmement inconfortable. Donc, c'est comme un appel à la vie hyper puissant qu'est-ce qu'on est en train de vivre.
Puis à se rendre compte, en fait, que cette vie-là, là, est pas séparée de nous. C'est ce que nous sommes au plus profond de nous. Fait que cette tendance-là, à cause d'être en prison ou whatever, d'aller chercher la vie à l'extérieur de nous, hein, à sortir de nous pour être en quête de quelque chose. Et c'est suffisant en ce moment simplement de s'asseoir et de relâcher cette quête puis de le ressentir.
De respirer dedans.
Ouais. Ça a toujours été là, ça sera toujours là. C'est la réalité du tissu même de notre monde matériel. C'est tellement simple, mais on dirait qu'on a fait tout un détour dans l'histoire de l'humanité pour, au bout de ce détour, revenir dans cette simplicité-là.
Mais une chance qu'il y ait ce détour, ça fait partie de la game. Sinon, il n'y aurait pas eu de détour. J'ai l'impression que des fois, c'est comme apprendre à jouer avec une radio. Les anciennes radios, là. C'est qu'il y avait un piton qu'on peut tourner. Puis que là, on s'est aperçu que on pouvait changer de poste. Puis c'est un peu ça pour moi aussi, cette transition identitaire. C'est de choisir le poste. Puis de continuer à augmenter les fréquences pour aller vers des postes qui sont de plus en plus vibrants, de plus en plus pertinents, mais qu'on sait qu'on peut tourner encore, puis qu'il y a sûrement d'autres fréquences, puis d'autres niveaux d'existence qu'on est à peine capable d'intuitionner. Mais que là, au moins, on est capable de changer de poste.
Mm-hmm.
Puis que quand ça griche, des fois, c'est juste parce qu'on est entre deux postes. Puis on a le choix de redescendre ou de remonter. Mais que là, cette capacité-là de faire « Non, moi, je me reconnecte à la fréquence pure de la vie. Je me reconnecte à mon corps, à la vibration. Que je ne suis plus juste passif en train d'écouter le blabla des postes inférieurs, on pourrait dire. Puis que là, genre, dans les postes supérieurs, ben j'entends le silence et je parle. J'émets pour voir si mes fréquences, mes vibrations, genre, sont cohérentes, créatrices. Puis plus on va augmenter notre fréquence au travers de ça, plus on va aller dans des espaces qui sont de plus en plus silencieux, où ce que notre parole résonne de plus en plus. Ça va être fou ce qu'on va créer quand l'humanité va être de plus en plus stabilisé dans cette zone-là.
Fait que ça peut se conclure avec une gratitude envers ce détour-là, puis envers cette contraction-là qui nous pousse globalement à s'affranchir. Et si vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de dire, que vous êtes en crise, avez de la misère à parler, ben, replacez-vous, ajustez votre radio, choisissez le poste sur lequel vous vous branchez, puis essayez de parler, déposez-vous dans votre corps, ressentez.
En tout cas, nous, on est contents de pouvoir prendre ce temps-là, faire ce podcast-là, puis je pense que vous commencez à comprendre que le podcast lui-même est un exercice qu'on explore pour parler, pour vibrer. On le voit très bien, tu sais, on se fait des petits sourires, ou on se voit, tu sais, puis on voit quand ça vibre, ou on voit quand ça vibre moins. On voit des fois qu'il faut pas trop vibrer fort pour qu'on soit compris aussi, pour pouvoir venir C'est comme une danse ensemble avec vous. C'est vraiment une zone d'exploration. De cette quête de voir comment on peut glisser notre identité puis choisir qu'est-ce qu'on veut être. Et intégrer tout ça.
Ben, merci Mathieu pour cet exercice. Merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui pour notre dernier podcast de la série sur l'identité. Ou peut-être pas.
Moi, j'en ferai un dernier sur... En phase sur...
L'intégration.
Ouais.
Alors, on se fera un dernier podcast pour conclure cette saison.
Merci, Marjorie.
Merci.
Merci à tous d'avoir été là. Au plaisir d'une prochaine.
À bientôt.
À bientôt.